L'approche de l'immersivité se fera par le biais des expériences de mapping, mais ça nous a semblé intéressant justement de pouvoir échanger sur ce sujet. Donc la première question que je souhaitais vous adresser, c'était justement dans la phase un peu intermédiaire, si on était à échanger au sein d'un musée ou d'une institution patrimoniale et qu'on projetait un projet immersif, quels seraient les conseils et quels seraient vos retours d'expérience, notamment sur la problématique des choix de narration, sur les choix de parcours visiteur et plus largement sur ce qu'on appelle l'expérience visiteur à proposer dans un espace muséal ou patrimonial. Thibaut, je vous propose de commencer.
Merci pour la question. J'ajoute qu'en plus de Celebrating Live, je suis un des cofondateurs de JEDAG Immersive, qui est l'association qui fédère toute la filière expérience immersive en France, qui organise les journées de l'immersif en avril chaque année, et qui essaye de regrouper, je le dis maintenant parce que ça va avoir un impact sur ce qu'on va dire, toutes les formes d'immersif au sein d'une même communauté pour maximiser les échanges et donc créer des expériences qui sont plus riches, plus hybrides. En tout cas, c'est notre croyance, ce pour lequel on travaille. Donc pour répondre à ta question, la narration, tu l'as mentionné, c'est vraiment au cœur d'une expérience réussie pour nous, et une narration qui également fait... qui parle au sens et à différents sens. Donc en fait, ce sont deux clés de lecture qui vont nous permettre de créer des expériences riches en émotions, des expériences dont on va se souvenir, qui vont être aussi peut-être vécues de manière collective, puisque c'est on l'a remarqué, des choses qui font plus d'impact, le fait de vivre une expérience en commun. Donc l'idée, c'est d'aller utiliser les technologies, pas forcément une seule, mais plusieurs technologies, pour aller toucher les différents sens, mais toujours à l'appui d'une narration. Une narration qui est exigeante, une narration qui est dans un contexte muséographique aussi, avec un comité scientifique. Enfin, voilà, on raconte des histoires qui sont fondées, qui ont une valeur pédagogique. Et donc, aujourd'hui, beaucoup l'image, évidemment, de plus en plus le son. Donc ça peut être le son spatialisé, utilisation de casque ou pas de casque, mais c'est vrai que c'est un sens qui permet des émotions fortes, qui permet aussi de surprendre, peut-être plus que par l'image, où on a l'habitude d'être très envahi d'images. Et puis on voit aussi l'arrivée de l'haptique. C'était au musée de la Marine ce week-end, la vidéo d'introduction. On est sur un banc qui va trembler à des moments pendant la vidéo. Donc des petites choses comme ça, mais qui vont vraiment venir surprendre et rajouter une interaction sensorielle dans l'expérience. L'odorat, voilà, des choses comme ça arrivent de plus en plus, qui sont peut-être moins technologiques, qui sont plus de l'ordre du bricolage ou des choses plus organiques, on va dire. J'espère que ça répond un petit peu à ta question. C'était aussi pour planter le décor par rapport à la variété des procédés dans la création d'une expérience immersive.
Très bien, merci. Antoine, tu as un micro aussi. Dans le cadre des projets que tu as pu développer, en particulier autour du vidéomapping et de l'aspect événementiel, puisque c'est encore un autre contexte que celui de proposer une expérience immersive pour un événement donné, souvent sur l'espace public. Donc cet aspect de narration, justement, comment elle se structure, comment elle s'organise, et éventuellement si tu as quelques exemples.
Alors, déjà désolé, je suis malade, j'espère que ma voix va pas partir en cours de route. Donc comme tu le disais, c'est vrai que nous sur l'immersif, on est vraiment sur un petit créneau de l'immersif, on travaille que sur le mapping, pas sur toutes les formes qui sont aujourd'hui un peu difficiles à définir, tellement ça foisonne et le mot est utilisé un petit peu partout. Donc sur le mapping, en effet, donc sur le mapping, il y a la partie monumentale qui pour moi n'est pas immersive, donc on parle plutôt de mapping englobant, hein, donc à l'intérieur d'une pièce par exemple, à 360 ou 180 degrés. Donc sur les types de mapping, on a aussi différentes formes. On a vraiment la partie événementielle et la partie semi-pérenne, voire pérenne. Et aussi des, enfin, oui, ce qui est sur le lien avec les musées ou les lieux de patrimoine, on a aussi deux grands types de projets. On a vraiment de la création, on a des artistes qui vont s'inspirer du lieu, de ce qu'est ce site, qui vont vraiment être dans une démarche artistique de créer une œuvre. Et on a plutôt des formes d'outils de médiation. Donc c'est deux types de process complètement différents. Dans les deux cas, que ce soit mapping en général, il y a quand même à chaque fois on s'inspire forcément du support sur lequel on va projeter, graphiquement, mais aussi de son histoire, enfin de ce qu'il véhicule. Donc dans tous les cas, on a quand même une interaction entre l'artiste et l'équipe scientifique ou la direction du musée. Enfin, donc il y a une connexion comme ça pour que l'artiste puisse se nourrir, mais qui ne va pas être de la même nature que quand on est vraiment sur un projet de médiation, où là il y a un travail beaucoup plus serré avec les scientifiques, qui est des charges vraiment sur qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, voilà. Et après on a différents usages. Pourquoi ces partenaires souhaitent un mapping? Est-ce que c'est, donc on prenait l'exemple dans nos échanges la dernière fois d'un projet qu'on a fait avec Bavé. Nous on est essentiellement quand même dans le champ de la création, on va rarement sur des projets que j'appelle plus didactiques. Moi, c'était le cas avec le musée de Bavé, qui avait une stèle funéraire assez effacée, pas très attractive. Et donc, dans le parcours muséal, ils se rendaient compte que le public passait tout de suite devant. Donc, on a travaillé sur un petit dispositif pour mapper cette stèle, en passant vraiment de la formation sur ce que ça veut dire, en fait. Donc, il y avait la reconstitution, juste de faire apparaître les lettres qui étaient complètement effacées, fortement effacé, et expliquer ce que ce texte disait en image. Donc là, on est vraiment sur un mapping pérenne au sein d'un parcours muséal. Si on prend un exemple à l'autre bout, l'historiel de Péronne, là, la problématique de l'équipe du musée, c'était de ramener dans le musée un public qui n'avait pas forcément l'habitude de venir. Donc là, on était sur un mapping monumental en façade, comme drapeau vers l'extérieur, comme signal d'appel vers l'extérieur, et ensuite un parcours dans le musée où on avait plusieurs pièces des collections qui étaient mappées. Donc là, c'était vraiment des créations artistiques. Il n'y avait pas de... Voilà, on mettait en avant ces œuvres, mais il n'y avait pas d'approche didactique.
Et une question annexe à cette question autour de la narration et en lien avec les institutions avec lesquelles vous travaillez, dans quelle mesure vous êtes force de proposition? Dans quelle mesure la demande initiale est celle de l'immersif? Ou au contraire, elle est le fruit justement d'une discussion, parce qu'effectivement c'est un domaine qui est foisonnant avec énormément de diversité, mais aussi de contraintes. Et donc dans quelle mesure, par rapport aux projets sur lesquels vous travaillez, vous avez une marge justement de discussion et d'évolution dans un domaine qui est en train d'évoluer énormément et de se structurer? Peut-être Thibaut, je te laisse commencer.
Merci. Très, très souvent quand même, parce que c'est un peu à la mode, et puis parce que ça marche, à la fois ça attire les publics et puis ça leur procure de la satisfaction, la demande des institutions est celle d'une expérience immersive. Après, souvent, il n'y a pas forcément de compréhension d'exactement ce que ça comprend. Donc là, il y a peut-être effectivement un travail de la pédagogie, mais c'est juste d'échanges, de discussions pour voir quels sont vos moyens, quelles sont vos envies, quelles sont les contraintes techniques. Est-ce qu'on peut peut-être essayer des nouvelles choses? Parce que nous, on est par exemple en train de faire de la recherche, comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Finalement, il y a beaucoup de gens dans les pleines images et autres qui travaillent sur des nouveaux dispositifs. Donc est-ce qu'on les intègre? Est-ce qu'on prend ce risque? Et donc c'est à nous de proposer ces choses, de voir si elles sont robustes ou pas. Après, effectivement, quand on est sur des grosses fréquentations, il y a quand même des exigences qui sont, dans les musées de France, qui sont parmi les plus hautes, même au niveau mondial. On est vraiment sur de la très très haute qualité en termes de propositions. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc il y a ce dialogue. Et puis après, il y a des modèles économiques qui émergent, où on va avoir des indépendants qui vont proposer d'occuper des lieux dans des sites de patrimoine ou des sites muséaux, avec des concepts qui ont été développés par ailleurs et qui souhaitent être exploités dans ces lieux. Donc là, effectivement, c'est le studio, le créateur, qui vient avec quelque chose et qui le propose à une institution. On voit comment ça peut...
C'est une logique de programmation, ça s'intègre dans la programmation plus large d'un établissement.
Oui, sauf que l'établissement n'en est pas forcément à l'origine. C'est quelque chose de nouveau, ça se fait pas encore énormément, mais on voit ça par exemple avec le concept Château de Lumière, où on a des studios qui viennent et qui habillent un château avec des installations, une programmation pour un temps donné, et donc ils vont adapter quelque chose qui existe déjà à un lieu.
Justement, cette question de réplicabilité, la narration, elle est aussi, j'imagine que de votre expérience, vous avez des choses qui fonctionnent bien, pour le dire de façon un peu triviale. Comment est-ce que, justement, ça peut se décliner, s'intégrer dans des programmations? Dans quelle mesure on thésaurise sur une expérience pour en proposer une autre? Est-ce que tu aurais des retours sur ce sujet?
Sur le mapping, c'est un peu spécifique, comparément à la VR, par exemple, on a une œuvre qui est sur un standard, et puis peut se balader sur des différents sites et dupliquer sur des casques. Sur le mapping, on est vraiment à chaque fois sur une création qui est faite pour un volume. Donc ce qu'on va faire en immersive dans cette pièce-ci, on ne pourra pas le faire dans une pièce qui aura des dimensions différentes, des murs plus grands, plus hauts et une salle plus courte par exemple. Donc à chaque fois on est quand même sur très souvent on est sur des créations in situ, à chaque fois originales qui n'y voyagent pas. Donc c'est une faiblesse sur le côté économique, c'est une force pour par contre avoir vraiment du sur-mesure. Après on a quelques projets. On a un projet de mapping sur des tableaux, par exemple, qu'on a initié avec le musée de Senlis sur les l'étoile de Séraphine. Et donc là, on a fait des copies de l'étoile. Donc c'est mapping sur le tableau et sur le mur autour. Et donc là, en l'occurrence, en ce moment, c'est un musée de Laval, parce que Laval a également des Séraphines dans ses collections. Donc voilà, ils ont identifié. Donc là, pareil, pour répondre à la question d'avant, finalement, sur les process, comment les projets arrivent, ils ont identifié que c'est. Ça a été montré à Rouen dans le cadre d'un autre musée, ils l'ont vu, ils ont souhaité l'accueillir parce que c'est rapide, il n'avait plus de sens pour eux. J'ai arrêté le début de la question. Donc la réplicabilité, elle est un petit peu plus faible en mapping. Après, on a par contre des univers artistiques, des œuvres qui peuvent s'adapter. C'est-à-dire qu'on refait l'œuvre, adaptée au volume sur lequel on travaille, mais on peut garder le discours et l'univers graphique.
Très bien, merci. Alors dans un second temps, l'idée serait de parler justement des technologies, en fait, donc là d'aborder davantage les problématiques de production, à la fois sur les problématiques de matériel, mais aussi de format, de pérennité. Ça a déjà été un petit peu évoqué dans vos deux présentations, mais est-ce que vous auriez quelques exemples pour asseoir justement ces choix ou éventuellement quelques conseils, même si effectivement les choses évoluent très vite.
Je peux commencer. Effectivement, pour les musées, il y a, je ne sais pas si c'est une tendance, peut-être on va dire une envie, d'avoir des espaces d'exposition immersifs, dans lesquels on peut venir proposer. Des formats, le même format, on va dire, mais avec des contenus différents. Donc sur une typologie d'expérience immersive. Alors je rappelle peut-être une des définitions qui est la nôtre d'une expérience immersive, c'est une expérience où le visiteur ou le spectateur devient acteur de son expérience. Donc il est vraiment au cœur de ce qui se passe. Et comme je l'ai dit au tout début de l'intervention, au moyen des sens, des émotions, on arrive à le faire et il faut vraiment que pendant cette expérience, il reste dans ce monde qu'on a créé pour lui, qui n'est pas forcément un monde imaginaire, hein, ça peut être un monde basé sur des choses très réelles. Et donc ce format d'expérience immersive plaît, il permet de faire passer des messages, il permet aussi une très belle médiation. Donc effectivement, il y a des institutions qui ont envie de pouvoir offrir ça de manière permanente, mais avec des contenus renouvelés. Donc la question se pose sur certaines institutions, ou certains sites patrimoniaux d'avoir ces espaces-là. Alors on reste quand même sur un mix image-son, parce qu'effectivement, ils permettent beaucoup de renouvellement. Et puis une fois qu'on est calé au niveau des projecteurs vidéo, au niveau du son, etc., bon, on peut changer assez facilement. Ce sont des investissements assez lourds, donc il faut les faire une bonne fois pour toutes. Quand il s'agit d'expériences plus humaines, type, nous on va mettre dans ce sac-là tout ce qui est théâtre immersif, escape game, jeu de piste. Il y a beaucoup de différents modes d'expérience dans les musées et les sites patrimoniaux. Bon, là, c'est plus difficile d'avoir. Enfin, on va être obligé de réinventer à chaque fois. Donc, ça va être des formats qui sont aussi moins lourds en investissement technologique. Il y a quasiment, enfin, très peu de technologie. Là, on est plutôt sur à chaque fois réinventer, recréer.
Mais pour compléter ce que tu dis avant de passer la parole à Antoine, au sein du musée d'archéologie nationale, on est en pleine rénovation et effectivement, on a défini un espace de salle, de future salle immersive. Simplement, on est dans une projection qui, elle, est plutôt à 50, 60, voire 70 ans en termes de durabilité, en fait, compte tenu des rythmes de rénovation des musées. Donc nous, à l'heure actuelle, on ne se projette pas du tout dans un aspect technique. Simplement, on s'assure qu'en termes de flux de visiteurs, c'est cohérent, qu'en termes de flux électrique, d'isolation par rapport à l'extérieur, en termes sonores, si on veut une expérience sonore. Enfin, voilà, on est sur vraiment du basique et sur la boîte. Ce qu'on mettra dedans, pour l'instant, c'est impossible. Mais par contre, on s'inscrit sur une telle durée qu'il faut qu'il y ait une forme d'évolution possible. Donc voilà. Et on est, je dis pour nous, on est à tout un tas de musées à se poser cette question. Antoine,
oui. Même question. Alors moi, la définition de l'immersive, encore une fois, dans le spectre mapping immersive, c'est d'être dans l'image, c'est-à-dire quand tu es face à un bâtiment ou face à un objet dans un rapport frontal cinématographique, pour moi c'est pas de l'immersif. Quand je mets l'étiquette mapping immersive, c'est que je suis à minima à 180 degrés, peut-être à 360, éventuellement sol, plafond. Donc on est dans du coup des dispositifs de vidéoprojection un peu complexes où on va avoir plusieurs machines. Donc on définit, voilà, je veux le sol et quatre murs, ça veut dire que j'ai de l'accroche au plafond, je mets des X vidéoprojecteurs pour couvrir tout, puisqu'évidemment on est contraint par des questions de position, de sens du projecteur, de positionnement de la focale, dont le recul possible de la machine. Donc X vidéoprojecteurs pour définir mon image, qui vont être pilotés par un serveur plus ou moins costaud et coûteux. Éventuellement j'ai de l'interaction. Donc un système de. Voilà, un device à choisir pour pouvoir avoir des contenus interactifs. Et après,
il y a du personnel aussi, le temps de l'expo, ou c'est. Parce que ça, c'est un.
Il y a des choses automatisées. Non, il y a des choses automatisées. Le choix du serveur va influer ça aussi, soit plus ou moins artisanal. Quand nous on est sur de l'événementiel, là on met quelqu'un. Quand on est sur des utilisations plus longues.
Par exemple, des projections. Dans les grandes projections, on voit au bout d'un moment qu'il peut y avoir des décalages entre les projecteurs. Ça, c'est des choses qui demandent à être.
Mais alors, il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un non-stop pendant la diffusion, mais il y a quand même besoin de maintenance et de recalage. Après, il y a des dispositifs de caméra automatisés, mais ça n'efface pas l'humain. Donc voilà, après, il y a ce que tu évoquais sur la question de la boîte. Qui dit mapping, qui dit vidéo projection, dit exit lumière du soleil. Donc il faut qu'on ait un espace où il fait noir, bon, adapté aux questions de sécurité, etc. Et après, il y a les contenus. Donc la force du mapping par rapport à aussi du patrimoine, c'est que finalement, quand j'éteins mes machines, j'ai mon bâtiment d'origine. Donc ça peut être compatible avec d'autres usages. Et c'est des tuyaux, donc en fait, je peux changer. Je peux avoir un contenu le matin, je publie, que peu public le soir. Je peux avoir un contenu très didactique, un contenu très artistique. Donc voilà. Et la question de la production, comme je disais tout à l'heure, elle va être pensée par rapport au format d'image que j'ai choisi, avec une définition plus ou moins lourde et donc des fichiers plus ou moins complexes et coûteux à mettre en œuvre. Et la partie son aussi.
Est-ce qu'il y a justement sur les formats d'image, les résolutions, est-ce que les choses sont en perpétuelle évolution? Ou est-ce qu'il commence à y avoir justement un certain nombre d'éléments un peu fixes
Il n'y a pas de standard. C'est ce qui manque par rapport à un cinéma ou une VR où il y a des formats standards. Donc à chaque fois, on est sur du sur-mesure. Et il y a des projets que j'accompagne avec des qui veulent le budget le plus bas possible, où on a des pixels comme ça et une luminosité un peu faible. Et puis d'autres qui veulent vraiment du top qualité, où le budget va être multiplié par 5. Et c'est pas les mêmes choix de matériel. Bon, la taille de l'espace, évidemment, change aussi les choses.
Et sur ces questions de production, est-ce que c'est des productions qui partent de zéro, ou est-ce que vous avez aussi un échange, et j'imagine qu'il y a différents cas de figure, avec les partenaires sur des contenus qui pourraient vous être mis à disposition? Je pense à des modèles 3D de monuments, à des contenus vidéo, voire des contenus textuels, des contenus images. Et à ce moment-là, comment se passe justement l'intégration et la combinaison de ces éléments?
Quand c'est une commande, oui, généralement, l'institution va avoir une équipe mise à disposition pour accompagner le studio avec plus ou moins d'éléments donnés. J'avais un peu évoqué la question pour le projet Méditerranée 2050 qui est au musée océanographique de Monaco, qui était réalisé par Artisans d'idées. C'était vraiment une collaboration sur un an avec des intentions très claires du musée, des ascètes, enfin tous les poissons ont été refaits par le studio, mais sur la base de tout un tas de matériaux qui venaient du musée. Donc c'est un bel exemple justement de création en commun d'une expérience immersive d'une très grande exactitude, il fallait vraiment une équipe du musée à disposition pour réaliser ce travail. Et je crois que c'était des réunions hebdomadaires qui duraient plusieurs heures. Enfin, là, on parle d'un projet...
un montage d'exposition, enfin, on est dans la même...
Ouais, avec un budget costaud.
Et on peut... Tu cites Monaco, on peut aussi citer, je pense, les expériences développées au Muséum d'Histoire Naturelle, qui, justement, depuis le cabinet de réalité virtuelle... ont construit et se sont nourris les unes les autres pour donner tout un tas d'autres expériences, et c'est assez exemplaire.
Avec la différence que pour... tu parles de Monde Disparu ?
Oui.
Monde Disparu, c'est une coprod qui était aussi... c'est intéressant parce que c'est effectivement un nouveau modèle qui a pour objectif... enfin, à l'intention, ça allait voyager. Donc c'était produit ensemble, montré une première fois au muséum, et ensuite ça a commencé à voyager. Donc il y avait cette vraie volonté à la fois de faire quelque chose d'exact avec les collections, etc., mais aussi d'exporter ça à l'étranger. Ouais.
Une question ?
Oui.
Non, sur la... encore une fois, on est contraint en mapping par la spécificité des formations avec lesquelles on travaille. Après, il y a de la matière de transmise qui est retravaillée, soit complètement refaite, soit retravaillée. Je prends l'exemple pour la ville d'Albert sur le centenaire de la Grande Guerre. Et tout un travail avec les historiens sur... Parce qu'il y a eu plein de nationalités, il ne fallait pas qu'on se gourre sur les tenues des soldats, donc il y a eu tout un travail, mais on a refait intégralement en animation tout le design, enfin toute l'animation, mais avec du coup de la matière d'information donnée en amont et vérifiée après. Après le projet qu'on a fait avec les Inuks sur la cathédrale de la Traille l'année dernière, là on a eu donc les œuvres du Louvre-Lens qui ont été mises à disposition et qui ont été réanimées, donc là on a vraiment par contre l'œuvre originale mais retravaillée, donc il y a plein de... En plein de cas, en ce moment, on est en train de travailler pour un mapping immersif avec un réalisateur français qui travaille beaucoup l'image d'archives. Donc on est en train de réfléchir avec lui comment on peut se retrouver avec des images de 6 mètres de haut, ultra définies, alors que ça a son image de source et rien à voir. Donc, et lui, il travaille vraiment avec la matière. Donc il y a des sujets comme ça qui sont
Et sur ces questions de format, puisque ça rejoint aussi des problématiques au sein du programme ICAR, notamment sur la question des données, et puis un travail mené par les institutions pour avancer sur justement une meilleure structuration des données, notamment des données de très haute résolution, avec des solutions de visualisation, je pense à 3IF par exemple, qui justement permettent de zoomer, enfin de diffuser une seule image de très haute résolution et de l'afficher. Dans quelle mesure, alors c'est un vœu pieux pour le moment, mais dans quelle mesure il serait envisageable de se connecter à ce type de dépôt? Alors évidemment, ça pose la question des tuyaux, de la connexion, du fait de fonctionner à l'instant T, enfin bon, il y a plein d'enjeux, mais cette logique qui serait un peu vertueuse pour éviter de refaire, parce qu'en fait on est tous d'un côté ou l'autre de la barrière, compte tenu des contraintes souvent à refaire et à doublonner et à dépenser une énergie qui pourrait être peut-être mieux structurée si on arrivait à faciliter les choses, mais il n'y a pas de raison. Donc ça, est-ce que c'est est-ce que vous regardez aussi du côté justement de l'open source, de solutions existantes pour faciliter cette démarche?
Alors, en fait, nous, on travaille avec plein d'artistes différents. Donc, enfin, chacun, on n'impose pas de. Là, on a un gros débat interne sur l'IA, par exemple. On a plein d'artistes qui sont anti-IA et d'autres qui l'utilisent de façon très différente. Enfin, donc, aujourd'hui, on n'a pas posé de cadre. On propose, enfin, au studio, on a du Blender, du Cinema 4D, la suite. Enfin, on a tous les outils et chacun utilise ce qu'il veut. Okay. Mais oui, c'est des sujets. Après, sur les histoires de. Pour upscaler les images, il y a aussi des outils IA. Donc, chaque artiste va utiliser des outils différents. On essaie de les mettre un petit peu. Voilà, qu'ils échangent aussi pour que.
Vous avez un peu une boîte à outils ou des éléments qui peuvent être partagés, ou c'est vraiment au cas par cas
on a une boîte à outils commune. Après, chacun vient puiser ou pas. Après, c'est des échanges entre les artistes. Ouais.
Très bien. Alors une autre question est celle justement du retour sur les usages. En fait, vous avez une expérience dans des domaines différents, sur de nombreuses expériences immersives. Il existe quelques études, on a des éléments, mais c'est vrai que du côté des institutions, on est souvent en manque de retours précis, d'éléments d'objectivation ou d'aide au choix pour de futurs développements. Est-ce que de votre expérience, vous avez des tendances qui se dégagent et éventuellement des ressources ou des études à signaler? Je pense qu'il y aura d'autres occasions d'en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment un élément important sur le retour d'expérience et sur une meilleure compréhension de ces évolutions, même si elles sont effectivement très diverses.
Ouais. Il y avait une interrogation sur la VR et est-ce que les publics vraiment apprécient une expérience VR, notamment c'était au Muséum d'Histoire Naturelle et je ne me souviens plus de son nom, mais une femme qui était intervenue à un événement un peu similaire sur l'immersif à Lyon l'année dernière, qui s'occupe des publics au muséum. Qui a fait son étude post-expérience, qui n'était pas hyper positive, dans le sens où ça n'a pas forcément apporté grand-chose au muséum et au public. Je vous la fais courte, je n'ai pas tous les détails, mais c'était juste pour introduire l'idée que la VR, on n'est pas sûr encore de son utilisation, vraiment de sa pertinence, même si on la voit, je ne sais pas si vous faites un peu attention à toutes les expos immersives, alors plutôt privées, hein, qui se font dans des halles d'exposition ou autres, sur des thèmes très très, très à la mode, type il y a Pompéi, etc., Titanic. Ils incluent maintenant quasiment systématiquement dans le parcours de visite, un moment où vous allez mettre un casque de VR et vivre une expédition VR collective à l'intérieur même de l'exposition. Je ne sais pas encore si c'est vraiment là, c'est vraiment la mode, tout le monde le fait. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va rester. Est-ce que c'est vraiment pertinent? À côté de ça, on s'aperçoit que des expos comme là, je sais qu'elle est dans la salle, l'expo Magellan de Lucid Realities. Là, on est sur des choses plus de l'image, du son, une très belle narration. Donc, on se rapproche plus d'une expo temporaire. Événement classique, mais avec vraiment une approche innovante, très sensorielle, et là c'est le carton plein. Donc on est sur des choses plus peut-être maîtrisées, ou c'est pas pour rien que les expos événements fonctionnent depuis longtemps. C'est juste une façon de les faire différemment qui est intéressant. Mais effectivement, à ma connaissance, on n'a pas énormément d'études qui sont faites, en tout cas, voilà, qui est suffisamment de taille de différents cas pour que ça puisse avoir une vraie valeur.
On a quelques collègues, je vois, Lise, qui aura des choses à diffuser et à relayer, même si on en voudrait toujours plus, effectivement. Et petit retour d'expérience par rapport justement à l'application, c'est vrai que l'installation d'un casque dont on penserait qu'il fonctionnerait de façon un peu autonome, une fois passé le côté waouh des publics, il y a souvent
ça reste encore très compliqué en termes de staffing sur les expériences.
Alors c'est ce que j'allais dire,
il y a beaucoup de monde.
En termes de gestion au sein d'un musée, c'est extrêmement compliqué sur la gestion de ces casques qui viennent s'ajouter. Il faut les nettoyer, les recharger, les expliquer. Enfin, donc ça, c'est très compliqué au sein d'une institution. Et l'autre axe, c'est celui de les intégrer dans des ateliers pédagogiques, par exemple. Et ça a un retour très, très positif. Ou dans des ateliers hors les murs. On a, par exemple, un atelier au service des enfants malades de l'hôpital Necker. Et donc, c'est des expériences. Mais voilà, il y en a tout un tas dans le domaine. Peut-être un petit mot sur le même sujet avant qu'on en arrive à une forme de conclusion et de temps d'échange avec la salle, bien sûr.
Sur le mapping, nous on a collaboré avec le laboratoire de visu de l'Université de Valenciennes pendant plusieurs années, qui a mené un certain nombre d'études. Donc à nouveau, c'est le mapping en général, donc il y a certains projets qui étaient immersifs. Donc là, il y a de la donnée à aller chercher. Avec des différenciations sur comment ça se vit dans l'espace public ou dans des lieux. Enfin, ils ont étudié plusieurs typologies de mapping.
Très bien, on va noter. Et peut-être donc pour terminer justement sur les aspects davantage liés au choix, à l'adaptation au lieu que vous expliquiez, et puis peut-être aussi sur les actualités des projets en cours qu'il serait intéressant, vous voudriez parler justement parce qu'ils illustrent cette question de développer ou d'évolution technologique ou de choix d'usage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête, ton actu?
Mon actu à moi, nous on a ouvert à Aix-en-Provence une expérience qui s'appelle Cosmos, où on est sur le thème de l'espace de manière générale, un hommage à Carl Sagan, qui était un astronaute et un scientifique américain, qui avait son émission dans les années 80. Donc on plonge les visiteurs dans une ambiance années 80, et ils partent pour une aventure casque sur les oreilles dans 5 pièces différentes, une histoire de science-fiction dont ils reviennent plein les étoiles dans les yeux, qui dure 45 minutes. C'est des petites jauges, on fait 30 personnes à l'heure. C'est une petite expérience qu'on propose avec un studio qui s'appelle Mirage Makers, avec lequel je travaille depuis 3 ans sur des expériences immersives familiales dans des petits espaces. Voilà, Cosmos.
On a toujours toute une série de formations, de résidences, de mapping événementiel un peu partout dans le monde tout au long de l'année. Et par contre, on a un nouveau projet là, qui va bientôt sortir. On est donc lauréat France 2030 Culture Immersive et Métaverse. Donc on va ouvrir le premier lieu immersif en région en mars prochain, donc qui est hybride pour ceux qui connaissent, qui était un lieu qui fonctionnait déjà depuis une quinzaine d'années, qui est un lieu dédié à la projection de court-métrage. Et donc là, qui est en rénovation, on va avoir un super dispositif 4x4 murs sur le plafond, LIDAR, un prototype de Module OPI qui est en consortium avec nous, Module OPI qui est le leader français des médias serveurs. Donc on va avoir un super outil techno et puis un espace qui sera à la fois avec une programmation vers le grand public et tournée filière, puisqu'on aura des résidences d'artistes, il y a un logement également dans le bâtiment, enfin 3 chambres, des espaces pour la recherche et puis des espaces de formation.
Ça nous intéresse qu'on prévoit une journée sur les résidences, donc peut-être qu'on aura... Et est-ce que potentiellement dans ces espaces, c'est aussi un... pour que les professionnels des musées ou des institutions patrimoniales puissent aussi... développer leurs compétences, est-ce que des résidences de professionnels du patrimoine pourraient être envisagées dans ces espaces ou...
Alors on est vraiment sur des sur des objets artistiques, pas médiation. Par contre, on peut en effet avoir des œuvres qui s'inspirent de contenu historique, histoire de l'art. Voilà, dans notre implantation sur le territoire, on est en face du musée d'histoire naturelle, par exemple, donc je pense que voisins et camarades de longue date, donc ça c'est sûr qu'on fera des choses avec eux. On est très proche du Palais des Beaux-Arts, je pense qu'on trouvera des passerelles aussi. Voilà, pour travailler avec ces équipes, peut-être en lien avec leur expo du moment, et avoir une lecture d'un artiste sur les thématiques traitées.
Très bien. Et dernière question avant les questions au public, la question de l'archivage. Est-ce que vous avez une démarche d'une forme d'organisation, de structuration de ces expériences pour en garder une trace, la déposer à l'institution, la conserver vous? Ça, c'est un vaste sujet. Il y a une production qui est large et diverse. Les formats, comme on le dit, ne sont pas structurés. Donc, quelle trace on garde de ces expériences immersives?
Nous, c'est un des sujets, un des vrais sujets qu'on a évoqué au niveau de JEDI, de la filière. C'est que déjà, il n'y avait pas beaucoup d'histoire de l'immersif. On a l'histoire de l'art, on apprend à l'école, etc. L'histoire de l'immersif et des différents formats, il y a très peu de choses. Et effectivement, il y a beaucoup d'expériences immersives pour lesquelles il n'y a pas de traces. Donc il y a un vrai sujet d'écriture de l'histoire. C'est un projet qu'on souhaite mener avec JEDI pour écrire l'histoire de tous les formats immersifs et d'archivage, quoi, pour pas qu'on oublie des trucs très chouettes. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas réinventé à chaque fois. Enfin, c'est vrai, c'est des trucs super, on peut aussi peut-être les réutiliser, je sais pas. Mais là, il y a un vrai sujet, ouais.
C'est un sujet qu'on partage sur plus largement les projets au sein du secteur musée patrimoine et nos collègues d'autres secteurs aussi, donc. Peut-être qu'entre Comet et le secteur musée et patrimoine, sur les 5 années qui nous restent sur Icare et un certain nombre de bonnes volontés, on pourrait envisager une publication ou au moins une forme de référencement de ces expériences. Je pense que ça serait faire œuvre utile si on arrivait à se projeter dans cette perspective.
Parce que c'est, excuse-moi, je pense. C'est un sujet aussi dans la légitimité aussi de quand on parle d'immersif, on parle beaucoup, ah, c'est à la mode, machin, etc. Mais si on arrive aussi à dire, bah, c'est plus que la mode, c'est une réalité, voilà, ce qui a été fait, comment ça a évolué. Si on peut documenter les choses, ça devient une vraie discipline, voilà, une forme d'art, alors qu'aujourd'hui, c'est pas forcément considéré comme tel.
C'est de la matière pour les chercheurs qui vont porter un regard sur nos pratiques, donc c'est tout l'enjeu d'ICAR et de fédérer, justement.
Dans le mapping, c'est la même problématique, hein. Il y a très peu de traces. Nous, sur le Vidéo Mapping Festival, on a une compétition qui s'appelle The Awards, où on montre en salle de cinéma les captations d'une sélection de mapping faite dans l'année, avec un prix derrière. Et en fait, on a énormément d'artistes qui nous disent bah, « je n'ai pas de documentation, je ne peux pas envoyer ». Donc nous, à l'interne, on a décidé de mettre les budgets pour filmer systématiquement. Donc on a sur le site Video Mapping European Center, on a je pense qu'on a plus de 700 mappings qu'on a réalisés qui sont filmés. Donc pour vraiment garder une trace, dont les artistes se servent aussi en tant que portfolio. On a lancé il y a 2-3 ans une plateforme ressources qui s'appelle Video Mapping Ressources. Donc malheureusement qu'on a arrêté de nourrir faute de soutien. Mais on a travaillé avec une chercheuse pour écrire l'histoire du mapping français. On a lancé une web-série, on a 20 portraits d'artistes mapping, on a une base de données, enfin on a commencé ce travail, mais malheureusement on n'a pas réussi à financer. Quoi.
Très bien, bravo. En termes de timing, j'essaie de ne pas trop déborder pour laisser de la place à nos collègues de la table ronde suivante, mais peut-être qu'on peut quand même se tourner vers vous et éventuellement... voilà. Recueillir vos questions, échanger, poursuivre les échanges, sinon ça se fera en cours de journée. Ouais, vas-y, je crois que je l'ai encore.
Oui, pardon, excusez-moi, j'ai aussi la voix cassée. J'avais une question au sujet de. Je m'adresse plutôt à vous au sujet du mapping. Vous parliez du musée de Senlis et de projection sur les œuvres et les tableaux. Dans quel contexte ça apparaît, quel a été finalement le succès ou non-succès de cette opération et quel public on touche aussi. J'entends tout ce que vous avez pu dire, notamment sur les questions des études qui sont faites, et en effet c'est passionnant puisque ce sont des sujets de société. On les, nous, à nous, professionnels des musées, de se saisir ou non de ces questions.
pour Senlis, c'est un peu la même chose que l'exemple de l'historienne dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est la ville de Senlis qui a souhaité s'inscrire dans le Video Mapping Festival. Donc le Video Mapping Festival, c'est un festival qu'on porte, qui est itinérant en France, donc ouverture à Lille en avril, clôture à Amiens en octobre. Et les collectivités qui souhaitent peuvent s'inscrire et avoir une étape chez elles. Donc Senlis a souhaité avoir un parcours mapping dans le centre-ville, avec du mapping monumental. Donc on a fait la cathédrale de Senlis, on a fait le parc royal, mais on est à un moment rentré dans le musée. Donc il y a vraiment, c'est 8000 personnes en deux jours qui passent dans le musée, dont des gens de Senlis qui n'avaient jamais mis les pieds dans le musée de leur ville. Donc c'est vraiment c'est l'idée d'un événement qui met en avant le patrimoine et qui va ramener aussi dans le musée un nouveau public. Après on est sur, c'est deux soirs événementiels. Et par contre ce projet a donné naissance à une exposition itinérante. Donc derrière ces trois tableaux de Séraphine Mappé, donc dans la, en fait on a fait la salle vraiment avec les trois tableaux derrière, on a produit donc les Degos, les jeunes et les vieilles du Palais des Beaux-Arts, des Kandinsky, des Le Cri, de Munch et j'en oublie un. On a produit plusieurs, on a décliné le concept avec une exposition de tableaux mappés qui maintenant se baladent en France.
Et du coup, ces tableaux prennent vie d'une certaine manière. Quel discours, quel storytelling on met derrière?
Alors, on est vraiment sur la création, on n'est pas sur de la médiation, sur l'anti-médiation. Il y a un travail de prolonger l'univers dans la pièce. Sur les villes, il y a des effets visuels aussi sur les vieilles, par exemple, de Goya. À un moment, c'est la machine du mapping, on ne sait plus ce qui est du vrai ou du pareil, enfin, les ailes se mettent à bouger. Donc mais on est vraiment dans une écriture artistique, il n'y a pas de volonté de c'est pas palette version mapping, quoi.
Sur le vidéo mapping, il y a d'autres dispositifs qui sont encore visibles sur des objets archéologiques de médiation. Je pense par exemple à celui qui est présenté dans le parcours permanent du musée de la Romanité à Arles et qui est le fruit d'une expérience dans le cadre du Muséomix au musée de Fourvière. Et donc là, c'est Jean-Pascal Marron qui a travaillé là-dessus et donc qui est à Paris Musée maintenant. Il est parti, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, qui a beaucoup à dire sur plutôt la déclinaison mapping médiation. Bon, après, il y a d'autres collègues, on en trouve dans de plus en plus d'expositions maintenant. Mais si ça vous intéresse, voilà, il y a un réseau, un fil à tirer.
Bonjour, merci. Bonjour. Pour ces échanges. Moi aussi, j'ai la voix enrouée. Je pense que c'est la deuxième thématique de la journée. Aïe, aïe, aïe. Je suis Marie Delanoë et je dirige les monuments historiques de la ville de Toulouse. Bon, je représente aussi l'autre partie de la France, un peu plus loin. J'étais très intéressée pour ce que vous avez pu dire sur le galvaudage de ce terme immersif qu'on expérimente aussi par chez nous, avec des propositions qui sont plutôt de l'ordre du divertissement, même dans des sites patrimoniaux. Et c'est un sujet qui moi, m'occupe et m'intéresse pour savoir comment s'éloigner de cette image-là, tout en gardant l'aspect attractif. Et je suis évidemment persuadée que ça passe par le niveau de scientificité qu'on a pu voir dans les échanges du début de matinée. Comment séquencez-vous les échanges avec les équipes scientifiques de conservation des lieux sur lesquels vous intervenez? Merci.
Tous ces artistes, mais peut-être pas...
Question piège.
C'est très... Non, mais c'est... Encore une fois, il y a plein de projets différents, donc il n'y a pas un process qui est posé. Il y a X aller-retour en fonction de la complexité du projet, du sujet. Mais bon, il n'y a rien de posé. Il faut juste que les créateurs de contenu et les scientifiques se parlent et trouvent le mode de communication qu'il faut, quoi.
Et puis je pense que du point de vue là, de l'institution culturelle, il y a un certain nombre de réflexions, d'échanges et on pourrait en discuter, le temps est malheureusement un peu compté aujourd'hui, mais il y a une vraie question par rapport à des offres qui sont différentes, même si elles portent le même nom. C'est-à-dire que l'immersif qui est proposé à l'Atelier des Lumières, avec le succès qu'on lui connaît, est très bien en fait. C'est une offre parmi d'autres, on a l'impression de la qualifier, de la structurer, là on rentre dans une logique de jugement par rapport à nos pratiques, et voilà, et on le fait. Mais on... on s'inscrit dans d'autres démarches quand il s'agit de valoriser des sites patrimoniaux, des collections archéologiques. Et je ne sais pas si une prévaut sur l'autre, elles peuvent fonctionner toutes les deux, mais à des moments différents, sur des publics différents. Mais ça, c'est vraiment, je pense, une réflexion à mener entre nous, au sein des institutions, sur la façon de se positionner. C'est-à-dire qu'à un moment, l'institution a aussi une forme de responsabilité dans ce qu'elle veut proposer. Et on le voit bien, c'est déjà le cas quand on propose une exposition. Vous le connaissez parfaitement. Le niveau de langage que l'on souhaite donner, je ne suis pas sûr qu'il dépende uniquement de la nature immersive de l'expérience. Voilà. Pardon, c'est un peu... pas très structuré, mais voilà, vaste sujet en tout cas.
On croise des gens, enfin il y a des gens du business, il y a des gens de l'art, il y a des gens de la science, enfin finalement autour de ça, on a plein d'enjeux différents, hein, avec des objectifs qui ne sont pas forcément compatibles.
Jean-Charles Denain, Université de Montpellier, Paul Valéry, il n'a pas encore la voix rouée. J'avais un élément complémentaire pour faire suite à ce que disait Thibault Paquin sur l'intérêt des publics, sur l'immersif. Mes collègues d'Infocom sont en train de réaliser une étude sur l'exposition Pierre Soulages à Montpellier, qui comporte un spectacle immersif sur l'œuvre du peintre, sur un panel de 300-400 interrogations. Il n'y a eu aucun point négatif sur ce spectacle immersif, que ce soit sur les publics jeunes, sur les publics plus âgés, seniors. Ils ont tous trouvé l'intérêt, soit en amont, soit en aval, de cette expo traditionnelle.
C'est celui avec la VR, c'est ça ?
Oui, ouais, tout à fait, oui, qui dure une douzaine de minutes.
Est-ce qu'il y a du positif ? Vous n'avez dit rien de négatif ?
Non, non, non. Bon, c'est une étude en cours, elle sera sans doute affinée au cours de l'exposition.
Merci.
S'il y a d'autres questions, peut-être une dernière question ?
Vous organisateurs de... Oui, oui, on va fédérer les différentes remarques, on va les noter, les relayer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis il y a le réseau Ariane, hein, où vous pouvez vous inscrire et faire remonter les éléments. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des connaissances d'études. Après, c'est vrai que ce qui est très dur, c'est d'avoir à la fois une vision macro, on voudrait avoir des guides, et à la fois des études spécifiques sur des cas très, très précis. Donc voilà, bon. Est-ce qu'on va peut-être laisser la place à la table ronde suivante pour pas trop déborder ce programme. Merci beaucoup.